Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, à deux jours du début du Tour de France, celui qui pendant 28 ans en a été le chroniqueur le plus célèbre, un écrivain inclassable, Antoine Blondin.
Les gens de gauche me prennent pour un gars de droite, les gens de droite me prennent pour un gars de gauche. Je suis ni l'un ni l'autre, je suis un nanar.
Ans d'histoire. Le jour de son enterrement à l'église de Saint-Germain-des-Prés, tous les amis d'Antoine Blondin étaient là. Des écrivains, des journalistes, quelques vedettes du rugby, du vélo, du cinéma, une brochette d'académiciens venus en voisin et des inconnus avec lesquels il avait écumé tous les bars du quartier latin. Dans une église pleine à craquer, Michel Déon, le compagnon des bons et des mauvais jours, rappela le Blondin qu'il avait rencontré 40 ans plus tôt. Il avait pour lui, dit-il, l'intelligence et un cœur immense. Il était beau et courageux. Il possédait au plus haut degré le sens de l'honneur et de la fidélité. La grâce voulait, ajouta Déon, qu'il fût aussi un grand écrivain. Écrivain, mais aussi journaliste, il n'avait fallu à Antoine Blondin que 5 romans pour devenir une des figures les plus originales de la littérature d'après-guerre. France Inter, le 7 juin 1991.
Bonsoir, la mort d'Antoine Blondin, génial touche-à-tout de l'écriture, romancier, journaliste sportif, personnage hors du commun, Antoine Blondin est mort à 69 ans. Il était un personnage à part dans le monde des lettres, 5 romans seulement, mais une multitude de prix littéraires, du prix interallié au Grand Prix de l'Académie française. Des centaines de chroniques sur le Tour de France dans l'équipe et aussi une personnalité exceptionnelle, buveur et fêtard. Tout ça, c'était Antoine Blondin.
Pratiquement, depuis 10 ans, je n'écris plus. Depuis que j'écris plus, on me donne des prix littéraires. J'ai quand même écrit énormément dans ma vie. Je n'ai jamais lu une ligne de moi. Ça me plaît pas. Enfin, les prix littéraires me permettent de payer mes boissons. Total, je suis tombé un peu malade. Mais je vais me remettre. À la boisson d'abord, et aux prix littéraires ensuite.
Alain Cressucci, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était Antoine Blondin en 1990, un an avant sa mort. Antoine Blondin, dont vous êtes le premier à avoir écrit une importante biographie qui vient de sortir chez Gallimard. Ce qui n'a pas dû être facile, hein, parce que vous le dites vous-même, dans ses entretiens, comme celui que l'on vient d'entendre, Blondin brouillait les pistes. Hein. Il écrivait, dites-vous, sa légende. Par exemple, est-ce que c'est vrai qu'il n'aimait pas ce qu'il écrivait?
C'est peut-être pas tout à fait faux. Les Hussards ne parlaient pas beaucoup de leur œuvre, ils parlaient plus de leur vie, de leur amitié, mais ceci dit, il avait quand même une grande conscience d'être un écrivain et je pense d'être un très bon écrivain.
Alors quand on parle de Blondin, on parle le plus souvent du personnage, de celui qui écumait les bistrots du quartier latin, et en les distinguant de l'œuvre. Vous ne distinguez pas les deux, hein, et vous dites d'ailleurs, vous avez utilisé dans votre livre essentiellement ces 5 romans, entre autres, pour parler de Blondin, pour comprendre l'homme, hein, qu'il s'agisse de l'Europe buissonnière, des enfants du bon Dieu, de l'humeur vagabonde, du Saint-Jean-Hiver ou de Monsieur Jadis, qui étaient tous d'ailleurs des romans autobiographiques.
Sans aucun doute, bien sûr, je ne simplifie pas au point de parler de l'œuvre et l'homme ou de l'homme et l'œuvre, mais quand on lit les romans de Blondin, eh bien, il faut savoir qu'on lit une transposition littéraire de son existence et de celle de ses proches.
Alors, on retrouve par exemple dans le premier de ses romans, l'Europe buissonnière, c'est un épisode important qui a beaucoup compté dans sa vie. Vous lui consacrez tout un chapitre, c'est son séjour en Allemagne pendant la guerre, dans le STO, le service de travail obligatoire. Et là, vous rappelez que, contrairement à beaucoup de jeunes Français qui essayaient d'y échapper en allant au maquis, lui, il est allé très volontairement.
Tout à fait. Alors, c'est la deuxième partie de l'Europe buissonnière, celle qui est consacrée à un étudiant qui s'appelle Superniel, qui est d'ailleurs le nom déguisé d'un de ses compagnons du STO. Et le personnage de Superniel reproduit à peu près l'itinéraire d'Antoine Blondin, c'est-à-dire qu'il a été convoqué comme tous les Français de son âge. Et certains ont essayé d'y échapper par le maquis, d'autres en se cachant, d'autres y sont allés, j'allais dire, contraints et forcés. Lui, il y est allé, j'allais dire, tout à fait volontairement et presque en donnant des justifications. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. D'autant qu'il en a donné une version très romancée en disant que la police française l'avait arrêté. Tout à fait faux, il y est allé, bon, comme ça.
Alors après la guerre, il réprouve l'épuration, il déclare détester la littérature engagée de l'après-guerre, hein, notamment ce qu'on appelait d'un terme très vague les existentialistes. Il écrit à partir de 51 dans une revue de droite, Rivarol. Il fréquente ce qu'on a appelé, on venait de le dire, les hussards, hein, des écrivains comme Roger Nimier ou Jacques Laurent. Alors Blondin a toujours été considéré, au fond, comme un écrivain de droite. On l'écoute en 1972 au micro de Jacques Chancel.
On disait parfois, Blondin, c'est un anarchiste de droite.
Ah oui, mais ça, je ne retire pas la formule du tout. C'est-à-dire que, voilà, le grand problème, c'est de savoir si on aime l'individu ou si on aime la société dont cet individu fait partie. Eh bien, j'avoue que jusqu'à nouvel ordre, je préfère l'individu à la société. Si on veut réformer la société d'un autre côté... C'est pas mon ambition, c'est pas...
Pourquoi disait-on les hussards ?
Ah ben, on disait les hussards parce que Bernard Franck, qui est un remarquable écrivain, a un jour écrit les hussards de droite. Et à l'origine, il y en avait trois. Il y avait Jacques Laurent, Roger Nimier et moi. Et alors depuis, cette étiquette est restée. Puis c'est joli, hussard.
Alors, les hussards, on l'a entendu, ça vient donc d'un article de Bernard Franck et aussi du titre d'un livre de Nimier. Mais au-delà de ça, c'était quoi, les hussards ?
Les hussards, c'est vrai qu'au départ, c'est un article polémique paru en décembre 52 dans Les Temps modernes, donc relativement tard dans la querelle de l'existentialisme et du roman engagé. Et cet article s'appelait Grognards et hussards.
Et Bernard Franck... La querelle, c'était même la guerre froide. Hein.
Oui, c'était... Mais disons que la querelle d'existentialisme était sur le déclin, là. Mais il y avait quand même une opposition très nette entre, j'allais dire, les écrivains du côté des temps modernes, c'est-à-dire du côté de Sartre, il faut dire, et les écrivains...
De la gauche, du Parti communiste.
De la gauche, aussi, mais... du Parti communiste, d'extrême gauche, et puis d'autres, hein, que Bernard Franck a désigné sous le nom de hussard, qu'il associait aux grognards. Alors les grognards, c'était des vieux écrivains bourgeois, et les hussards, c'était des petits jeunes gens qu'il traitait d'ailleurs de fascistes. Mais à cette époque, quand on était gaulliste, on était déjà un peu fasciste en 52. Il faut se replacer dans l'histoire des temps. Hein. Et donc, cet article très polémique disait qu'il y avait un petit groupe qui était mené par Roger Nimier et dont les principaux lieutenants, mais en fait, c'était un groupe de trois, c'était Jacques Laurent et Antoine Blondin. Et cela, il les appelait les hussards parce qu'ils écrivaient vite, parce qu'ils se réclamaient de Stendhal, que Sainte-Beuve avait traité de hussards verts. Bon, vous voyez, c'est en fait un article qui est très, très poli et très méchant, même. Hein.
Mais ils reprennent à leur titre, le titre de Hussard. Oui. Alors, il y a eu plus tard Déon, il y a eu Marcel Aimé, et Nimier, bien sûr, qui disait « L'écrivain n'est pas nécessairement un fonctionnaire ou un prophète. » Autrement dit, leur critique de l'existentialisme et des gens des temps modernes, c'est qu'ils n'aiment pas la littérature engagée, grosso modo.
Alors là, c'est vrai que dans le climat de l'après-guerre, la plupart des romans, c'était des romans de témoignages, et souvent des romans engagés qui prenaient position. Or, les hussards, qui ne s'appelaient pas hussards entre eux, puisqu'au fond, ils n'écrivaient pas de la même manière. Hein. Il n'y a pas de ressemblance entre Laurent, Nimier et Blondin. Eux, ils refusaient de faire de leurs romans des manifestes politiques.
C'était même pas une école littéraire, c'était plutôt des copains. Et au fond, on a le sentiment que c'est plus par solidarité, par amitié, au fond, que Blondin est parmi eux, plutôt que par des idées politiques. Oui. Là, la politique l'intéresse pas, en définitive.
C'était même des copains, vous voyez, c'est encore plus compliqué, parce que l'amitié entre Nimier et Blondin, qui deviendra vraiment très, très, très intime, eh bien, n'a commencé que vers les années 55. ce sont plutôt des gens que Bernard Franck distingue par une sorte de communauté d'inspiration, c'est-à-dire le refus de la politique, le désir de la désinvolture. Vous voyez. C'est ça qui les réunit.
Alors l'amitié, elle pouvait aussi, avec Blondin, se nouer dans les bars du Quartier Latin, où Blondin, d'ailleurs, levait plus souvent le coude pour boire un verre que pour écrire.
J'ai toujours appelé les verres de contact. Car quand j'étais très jeune, c'est-à-dire avant d'avoir une fille, je bégayais énormément et j'étais bourré d'humilité. Et puis, je me suis aperçu que quand je buvais, je ne bégayais plus. Alors je me suis mis à boire, je comprends tout maintenant, pour pouvoir entrer en contact avec la terre entière.
Alors, boire pour entrer en contact avec la terre entière, c'est ça l'alcoolisme de Blondin, Alain Cresciucci?
Ben, écoutez, sans doute pour une part, mais dans cette archive, on a un bel exemple de l'élaboration par Blondin lui-même de sa légende.
Enfin, c'est pas une légende, il buvait.
Non, mais de sa
légende. Sa devise, il faut le rappeler, c'était « remettez-nous ça ».
Mais de sa légende, de sa biographie légendaire, car il ne s'est pas mis à boire avant qu'il ait une fille, il buvait déjà avant, la naissance de sa fille, ou plutôt de ses filles, n'a rien changé. C'est vrai que...
C'est le bégaiement, c'est la timidité.
Alors le bégaiement, il l'avait avant, il ne l'avait pas plus avant qu'après. Et d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont dit, ils s'en servaient de ce bégaiement, comme d'un charme. Ça le rendait charmant. Ce n'était pas du tout un bégaiement handicapant. Hein, il en jouait même. Hein. Donc, l'alcoolisme, là, il aurait fallu inviter un spécialiste de l'alcoolisme. Mais il est évident que Blondin, par exemple, le père de Blondin qui s'est suicidé, buvait aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une fatalité génétique, je n'en sais rien, mais il est évident que l'alcoolisme n'est pas vécu comme quelque chose d'heureux chez Blondin. Ensuite, il a fait comme si c'était quelque chose d'heureux, mais il a souvent essayé d'arrêter de boire. Et quand il écrivait, il essayait d'arrêter de boire. L'alcoolisme, c'est pas qu'un alcoolisme mondain. Faut pas imaginer ça.
Alors, ça rendait évidemment la vie plutôt difficile aux femmes de sa vie. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu trois. La première, Sylviane, dont il a eu des enfants. Il y en a eu deux autres. Il y a même eu d'ailleurs quelques aventures dont j'ignorais l'existence. Dalida, qui a été, je crois, la maîtresse de Blondin. Et finalement, il était assez seul. Il y avait des copains, il y avait des bars, puis il se retrouvait tout seul le soir. Vous avez une très jolie formule, Alain Cresciucci. Vous dites, il n'était pas fait pour vivre seul, même s'il ne pouvait vivre avec personne.
Je crois que la solitude, c'est la grande angoisse d'Antoine Blondin. Et en même temps, il l'a recherchée. Il l'a recherchée. Il y a une jolie formule à propos du Tour de France. Il disait « Le Tour de France, c'est la plus belle forme de solitude parce que c'est une solitude peuplée. C'est assez hermétique, hein, mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est qu'à la fois, il y a une angoisse de la solitude, peut-être l'angoisse du fils unique et de l'enfant qui n'était pas forcément toujours avec ses parents. » Et en même temps, il y a la recherche de la solitude.
Alors après l'Europe buissonnière, il y a eu en 52 Les Enfants du Bon Dieu, puis L'Humeur vagabonde en 1955, et en 1959, ce qui fut sans doute le meilleur des romans de Blondin, où l'on retrouve justement l'homme et son penchant pour la bouteille.
Eh bien, je viens d'écrire un roman qui s'appelle Un singe en hiver. Ce roman est celui de la chute, de la rechute plutôt, d'un homme d'une soixantaine d'années qui a cessé de boire. Le jour où un homme de beaucoup, son cadet, se présente à lui, il renoue avec la tentation de succomber, et en fait le suspense de ce livre, s'il y en avait un, serait succombera-t-il, succombera-t-il pas.
C'est quand même triste, un jeune homme seul devant sa soupe.
Bien sûr que c'est triste, seulement si je l'invite, tu diras encore que je manigance des trucs.
Parlons plus de ça, va. Monsieur Fouquet, nous n'aurons plus de clients à cette heure-là. Si ça vous ennuie pas de venir à notre table...
Avec plaisir, chère madame.
Marion.
Oui, monsieur.
Venez donc ouvrir la bouteille, là.
La censure, en la personne du représentant du ministre de la Santé, vient de s'opposer à la sortie du film Un singe en hiver, réalisé par Henri Verneuil, d'après le roman d'Antoine Blondin, avec notamment Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Motif du refus du visa... Le sujet traité est de nature à favoriser l'alcoolisme.
Allez, on tient pas.
Allez, le galop, le divin chaud.
À la gloire des fusillés marins d'Extrême-Orient.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Antoine Blondin.
Et c'était un extrait du film de Verneuil, Le singe en hiver, d'après le roman de Blondin. Alors si le film Alain Crisucci a provoqué, on l'a entendu, les foudres de la censure, en revanche, le livre qui a été écrit 3 ans avant a eu un prix et il a été plutôt célébré. Vous dites vous-même que c'était au fond le meilleur roman des 5 romans de Blondin.
Je sais, c'est mon opinion. Vous me permettrez tout d'abord de laisser à Blondin la responsabilité de l'interprétation qu'il fait de son livre, qui n'est pas celle que je fais. Non, pour moi, ce n'est pas un livre sur l'alcoolisme, ça va beaucoup plus loin. Là, il se dissimule derrière cet argument. Et d'ailleurs, c'est cette interprétation-là qui a été choisie par les scénaristes et par Verneuil, c'est-à-dire que dans le film Un singe en hiver, c'est surtout une histoire d'alcoolisme, l'histoire du singe en hiver, et c'est pour ça que je le considère comme le plus beau des romans de Blondin, et c'est vraiment le drame d'un individu, et je dirais presque le drame d'un père. Et c'est un livre absolument déchirant.
D'un père à la recherche de ses enfants.
De ses enfants, Blondin, ouais. et un père qui a à la recherche de ses enfants, d'un mari à la recherche De sa femme, d'un amant à la recherche de sa maîtresse. Ça va bien au-delà de l'histoire d'alcool. Les foudres de la censure, eh bien oui, c'était. Et en fait, le film n'a pas été censuré, mais il a failli avoir des histoires. Il a failli avoir des histoires.
Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que ce film, alors qu'il a été. Les dialogues ont. Il est de Verneuil, les dialogues sont de Audiard. Blondin l'a beaucoup aimé, mais on n'a pas fait appel à lui. Hein. On l'a oublié, vous le rappelez, Alain Crisucci, il a fait les scénarios de 5 films. Mais ça n'a pas été un grand succès, en tout cas. Alors cela dit, c'est assez peu connu. En revanche, ce qu'il est beaucoup plus, c'est l'intérêt de Blondin pour le sport. Et c'est peut-être ce que l'on connaît le mieux, d'ailleurs, de lui, sa collaboration avec le journal L'Équipe, pour lequel, pendant 28 ans, de 54 à 82, Blondin a suivi le Tour de France.
Je suis en train de suivre mon 21e Tour de France, qui représente sensiblement 2 fois un quart le Tour de la Terre, mais je crois que je ne pourrais pas m'en passer.
Quand tu arrives à la salle de presse, il est fait ton papier, Antoine, ou bien?
Absolument pas. Non. C'est un très mauvais moment à passer qui commence.
Tu t'assieds et tu sais pas encore ce que tu vas écrire.
Non, je sais ce que je vais boire. C'est à peu près la seule chose dont je sois assuré. Moi, j'écris sous la dictée du Tour de France. Je lui impose rien du tout. Je lui demande rien. Il me dit des choses. Et aujourd'hui, il m'en a dit.
Alors vous avez une arrivée que Jacques Esclassant s'est dégagé. Esclassant pour l'Inden, ce sera très difficile. Esclassant pour l'Inden, c'est Jacques Esclassant qui triomphe devant l'Inden.
C'est pas comment un écrivain sur le Tour de France, Alain Crisucci. Comment ça s'est passé? Je crois que c'est en 54 qu'il a découvert le Tour.
Eh bien, c'est des admirateurs qui étaient Michel Clart et Marcel Ancenne. C'est une histoire compliquée qu'on lit dans ma biographie, mais disons que Michel Clart et Marcel Ancenne, qui travaillaient à l'Équipe, se sont dit qu'une plume comme celle de Blondin avait sa place à l'Équipe, et ils en ont parlé au rédacteur en chef qui était Gaston Meyer, et on lui a donné l'occasion de s'essayer sur un match de football. Ça a failli être son dernier article, parce qu'il avait titré « Et si on le renvoyait tous à la mine pour un an ?» car la France avait été battue par l'Italie. Et à cette époque-là, les joueurs étaient souvent d'origine polonaise et anciens mineurs de fond. Et malgré tout, on lui a donné sa chance. Il a écrit 4 articles époustouflants sur les 4 étapes du Tour. Et l'année suivante, il a été invité pour tout le Tour. Et ceci jusqu'en 82.
Alors voilà comment ça s'est passé. Maintenant, vous allez nous dire pourquoi. Pourquoi Blondin a-t-il voulu suivre le Tour pendant 28 ans, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Antoine Blondin le reconnaît. Soumis au fameux questionnaire de Proust, lorsqu'on me demanda « Quelle est votre activité favorite ?», je répondis « Suivre le Tour de France ». Une passion qui remonte à l'enfance avec un épisode douloureux lorsqu'il ne fut pas admis à participer à un concours scolaire dont le prix était de suivre une étape du Tour, justement. « Aujourd'hui, dit-il, ma Madeleine de Proust, si elle dégage un parfum d'embrocation, possède aussi une lointaine saveur de revanche. » Alors, l'embrocation, je ne savais pas ce que c'était, j'avais dans la rousse, une préparation huileuse pour le massage musculaire, très cycliste. Alors, le Tour de France, explique Antoine Blondin, on le reçoit comme une sorte de sacrement, un baptême ou une communion. Un univers à part aussi. Durant 3 semaines, dit-il, le Tour de France nous soustrait au trait commun du monde. Alors, Antoine Blondin aime particulièrement la vie nomade de journaliste du Tour. Les fortunes diverses de nos feux de camp m'ont conduit bien souvent à bâcler un article sur la cuvette d'un lavabo, assis sur un bidet de rencontre, couché au pied d'un arbre ou dans une baignoire. L'occasion pour lui aussi de réaliser un vieux rêve, écrire au bistrot. Comme dans ce bar de Lorient, par exemple. Nous étions là, dit-il, une bonne douzaine d'écrivains, ces Verlaine de la machine à écrire, affalés sur les banquettes qui rendaient à la menthe à l'eau la couleur féerique de l'absinthe. Alors, tout dans le Tour de France l'intéresse, les grands coureurs, bien sûr, qu'il peint comme de vrais héros. Il semblait, dit-il, que Jacques Anquetil ne fût pas, à proprement parler, un être humain, mais un cavalier d'Apocalypse, à la fois admiré et maudit. Eddy Merckx offrait, lui, je cite, la figure paradoxale d'un barbare, ses yeux étoilés, ses pommettes tartares, sa tignasse hérissée en faisceau de baïonnettes. Mais il y a aussi la masse des coureurs anonymes, dont le but n'est apparemment pas de courir pour la victoire, mais de servir au sens noble du terme. Ainsi, dit Blondin, de joyeux lurons pleins de talent ont-ils aidé à bâtir des cathédrales. Alors, il s'intéresse aussi aux spectateurs du Tour, plus surprenants les uns que les autres, les bonnes sœurs. Il semble qu'il y ait plus de religieuses ayant la vocation cycliste que de cyclistes ayant la vocation religieuse. Ou encore, image étonnante, cet aveugle rencontré sur le bord de la route. Un jour, dit Blondin, j'ai vu, de mes yeux vus, un jeune homme avec des lunettes noires, appuyé sur une canne blanche. Il tendait l'oreille au Tour de France, et tout un visage pathétique, pour le humer, s'en imprégner. J'y trouve, dit-il, la confirmation que s'il n'offre pas tout le temps quelque chose à regarder, le Tour parle depuis toujours, au moins à l'imagination.
Alors on le voit, Alain Cresciucci, Blondin, dans le Tour de France, je crois qu'il y a eu 524 chroniques, il s'intéresse pas du tout, finalement, ou très peu, aux résultats. Il commande pas les résultats du Tour. Il ne s'intéresse pas seulement aux grands champions de l'époque, Anquetil, Merckx, etc., mais aux à côté du Tour.
C'est exactement pour ça qu'on l'avait engagé, si j'ose dire. Il faut pas oublier que le billet de Blondin paraissait au milieu de quelques pages de résultats, de commentaires qui, eux, parlaient de la course. Lui, il parlait au Tour. Ce qui l'intéressait, c'est là, au sens propre, la chronique du Tour. Il a fait la chanson de geste du Tour. Et c'est vrai que ce qui est peut-être le plus admirable, c'est qu'il a chanté peut-être plus souvent les petits que les grands.
C'est la voiture balai,
ouais. Oui. Et alors, quelque chose qu'ont raconté les journalistes sportifs qui l'ont connu, quand un coureur sans grade était l'objet de l'article de Blondin, le lendemain, il venait le trouver en disant « Merci, monsieur Blondin, maintenant tout le monde me connaît
». Et il s'arrête en 82. D'ailleurs, il arrête d'écrire en 82. On se demande, il est très malade. Il va plus souvent cette fois-ci à l'hôpital que dans les bars à ce moment-là. Il commence à être vraiment malade, ne serait-ce que à cause de la boisson, mais aussi des chutes, des bagarres.
82, il pouvait pas faire plus, parce que 82, déjà, quand on lit les chroniques, et ça, c'est très intéressant de lire les chroniques en entier, c'est-à-dire de 54-82, on voit que plus il avance, plus ça se dégrade.
Et quand je dis écrire, c'est écrire même des romans.
Ah
des
oui,
romans,
oui, non, mais même bien avant, après 75, il est plus guère en état d'écrire. 82, son état physique ne lui permettait plus de suivre, et ça a été une sorte d'accord tacite. Il a fait quelques chroniques encore dans l'Équipe magazine, mais en restant sur place, très très peu.
Il a écrit aussi, on l'oublie, pour d'autres sports, l'athlétisme, le rugby, il a rencontré des grands amis. Il y a eu Guy Boniface, qui était un grand rugbyman, il y a eu Jean-Pierre Rive à la fin de sa vie, mais la fin de sa vie est quand même très pathétique, Alain Cresciucci. C'est vraiment un clochard qui erre un peu dans les rues du quartier latin.
C'est effectivement un clochard qui était soutenu par une bande d'amis qui n'étaient plus les mêmes que ceux de sa jeunesse. Mais il faut bien dire que dans la fin des années 70 et jusqu'à sa mort, le personnage de Blondin devient pathétique parce qu'il est une sorte de mascotte du quartier. Mais son état de santé, son alcoolisme, ses sautes d'humeur le rendaient très difficile à fréquenter.
Son physique aussi.
Son physique, c'est
il y a une photo, elle est magnifique sur la couverture de votre livre. Blondin est très beau, c'est ce que disait Déon le jour de son enterrement. Et à la fin de sa vie, il était édenté, il était vraiment très, très malade. Ses amis, vous le dites, ils l'ont reconnu lui-même, comme Déon ou comme Millot, par exemple, ne passe même plus, ne traverse plus la rue pour lui dire bonjour. Et alors, en même temps, il continue de s'exprimer, il continue aussi d'aller dans les bistrots, à tel point d'ailleurs qu'un jour, Pierre Assouline lui dit « Mais est-ce que l'Académie française vous intéresse ?» Et Blondin répond « Il y a 5 cafés entre mon appartement et l'Académie française, je n'y arriverai pas, je laisserai mon épée dans le premier bistrot, le bicorne, et j'arriverai en caleçon là-bas, non, ce serait très mal vu. » Il y a pensé à l'Académie ?
Je crois, oui, je crois. Je crois qu'il y a pensé parce que ses amis, et ça, ça devait lui faire un petit peu mal, ses amis y étaient, d'abord Déon et ensuite Jacques Laurent. Et eux aussi se sont demandé s'il fallait faire campagne pour Blondin, mais c'était pas possible. Il avait de très bons amis, hein, comme Genevoix, par exemple, qui était secrétaire perpétuel. C'était un clochard peut-être, mais de notre côté, c'était encore un homme de plume.
Mais justement, est-ce que c'est pas une vie, un talent gâché, la vie de Blondin?
La vie de Blondin, c'est comme il dit lui-même, qu'est-ce que c'est qu'une... On lui demande qu'est-ce que c'est qu'une vie de chien, et il répond, une vie de chien, c'est une vie de Blondin. Je vous laisse conclure sur le fait de savoir si c'est une vie gâchée. C'est la vie gâchée de Scott Fitzgerald, d'Alfred de Musset, mais c'est aussi peut-être pour ça qu'ils sont si touchants.
Puis une œuvre très belle aussi, hein, qu'on peut lire, bien entendu.
Qu'on doit lire.
Aujourd'hui, ben, est-ce que c'est actuel ou est-ce que c'est daté?
Non, ce n'est pas daté du tout. C'est actuel, c'est encore une œuvre qui a ses fans, son fan club. Il lui manque simplement d'être reconnu, parce qu'elle est encore connue. C'est une œuvre tout à fait moderne.
Merci Alain Cresciucci. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'une très belle biographie, la première, donc la seule, hein, d'Antoine Blondin, qui vient d'être publiée chez Gallimard. À lire également Le Flâneur de la Rive Gauche, un livre d'entretien avec Antoine Blondin, mené par Pierre Assouline, et qui vient d'être réédité à la Table Ronde. Et puis aussi Rue du Bac, Salut aux années Blondin, de Denis Lalanne, publié également à la Table Ronde, hein, qui était la maison d'édition de Blondin. Vous avez entendu un extrait d'un très bon documentaire de Jacques Maigne et Serge Garcin, diffusé demain à 14h40 sur France 5, intitulé Le Tour de France, vu par Antoine Blondin, ainsi qu'un extrait du Bon Plaisir d'Antoine Blondin, diffusé le 4 janvier 1986 sur France Culture. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Jean-Philippe Jeanne et Mathias Alléon, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Émilie Trassante, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet.